Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Allez, il est presque 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Elle a été renommée PDG de France Média Monde au mois d'octobre, mais faute d'avoir transmis ses déclarations de patrimoine à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, son mandat a été annulé. Ainsi, les 1800 salariés de France 24, RFI et de la radio en langue arabe, Monte Carlo Doualia, se retrouvent-ils sans présidente? Situation ubuesque. Cet imbroglio administratif fait carrément désordre à l'heure où le gouvernement entend réformer de fond en comble l'audiovisuel public. À l'heure surtout où ces programmes français émis en 15 langues et sur 5 continents ferraillent avec des mastodontes de l'information étrangère. Vous savez quoi? Les Russes, les Chinois, les Anglais mettent le paquet. Faire entendre sa voix à l'extérieur de son pays est devenu le fer de lance d'une vaste guerre d'influence.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Marie-Christine Saragosse.
Bonjour Sonia.
Vous vous êtes fait discrète et vous voici. Enfin, la situation s'est un tout petit peu clarifiée. On va en parler dans un instant. Un tout petit mot d'actualité des médias d'abord. TF1 réclame de l'argent aux opérateurs qui distribuent ses chaînes. SFR, Bouygues Télécom ont opt-opéré. Canal+ a dit non et a coupé tout TF1, écran noir pour les abonnés de Canal. Donc, les audiences de TF1 s'en ressentent carrément. C'est la semaine de tous les dangers. Ce matin, Le Figaro cite Stéphane Richard, PDG d'Orange. Pour lui, pas question de rémunérer une chaîne par ailleurs gratuite sur la TNT. Donc, il se dit prêt, lui aussi, à couper TF1. Quant à Free, l'opérateur diffuse en ce moment même un bandeau sur les images de TF1, indiquant qu'il serait bientôt contraint d'interrompre la diffusion s'il ne trouve pas d'accord avec la chaîne. Voilà, la preuve que c'est aussi rock'n'roll en ce moment dans l'audiovisuel privé que dans l'audiovisuel public. Vous avez un commentaire à faire, Marie-Christine Saragosse, sur vos confrères du privé?
Mais c'est-à-dire que nous, on est confrontés à ces problématiques de distribution dans 180 pays.
C'est alors, ça. Paraît une toute petite chose?
Disons qu'on connaît ce genre de problématiques, distributeurs, éditeurs de programmes.
Voilà, mais multiplié par 180.
C'est ça.
Alors depuis le 5 octobre 2017, je l'ai dit, date à laquelle le CSA vous a reconduit à la tête de France Média Monde, c'est-à-dire RFI, la chaîne d'info continue France 24 et la radio Monte Carlo Doualia, alors d'abord on a pris des extraits en fait de tous ces médias pour que tout le monde se rende bien compte de quoi on parle.
الخامسة صباحا باستديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس.
Merci de nous rejoindre sur France 24, 14h30 ici à Paris, à la une, qui va diriger l'Italie?
Vous écoutez Radio France Internationale, il est 13h30 à Paris, 12h30 en temps universel.
Voilà, ça nous semblait important parce que quand on dit France Média Monde, en général, les Français ne savent pas de quoi on parle et on se demande même si à la Haute Autorité, ils savaient ce que ça voulait dire France Média Monde.
Alors, je pense que oui, mais je voulais dire que c'était formidable les extraits. On a entendu un peu d'arabe, mais il y a 15 langues au total. Le français, l'arabe et puis donc 13 autres langues. Du persan, certains disent le farsi, mais chez nous on dit persan, à l'espagnol, au portugais, brésilien, au khmer, au vietnamien, enfin donc c'est vraiment toute la planète.
Dire que les lusophones nous pardonnent donc de n'avoir passé que ces extraits. Là, je l'ai dit donc, vous êtes resté 5 mois PDG de France Média Monde, votre nomination est aujourd'hui considérée comme nulle, vous aviez 2 mois pour vous mettre en conformité. À qui la faute dans cette histoire abracadabrantesque?
Moi je ne suis pas tellement dans la recherche de la faute, je constate qu'on est 14 présidents directeurs généraux d'entreprises publiques, d'établissements publics à être en quelque sorte dans le même cas de figure. Pas tout à fait le même cas de figure, puisque j'ai une procédure particulière de nomination qui passe par le CSA. Et que donc, le CSA, qui ne pouvait que constater cette disposition administrative, qui était une sorte d'automatisme administratif, est amené à refaire une procédure complète.
Et personne
à moins d'un
ne
an.
Vous a prévenu que vous aviez 2 mois pour remettre
non,
vos déclarations de patrimoine.
Non, je pense très sincèrement que pour les
ni chez vous en interne, ni au CSA, ni à la Haute Autorité,
non,
personne
alors,
ne s'est
moi,
occupé de ça.
Moi, ça fait 10 ans que je fais des déclarations parce que je respecte vraiment profondément la philosophie de la transparence. Ça fait 10 ans que j'étais saisie. Il se trouve que dans ce même régime législatif que cette loi du 11 octobre 2013, j'avais été saisie en 2015, mais je bénéficiais de dispositions transitoires que j'ignorais qu'elles étaient transitoires, donc j'attendais d'être saisie. J'imagine qu'aucun des 14 patrons, connaissant la gravité des conséquences qui s'attachaient à ce non-respect de cette formalité administrative, n'aurait décidé tout d'un coup d'oublier de le faire. Donc je pense qu'il y a sans doute quelque chose à améliorer, parce que la situation n'est bonne ni pour les gens qui la subissent, évidemment, ni pour les entreprises qui sont dans cette situation. C'est très grave pour les entreprises, et donc c'est pas bon pour l'État. Donc je pense que...
Voilà, je réexplique ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les 14 autres patrons d'entreprises publiques concernées peuvent être nommés par décret. Vous, il faut recommencer toute la procédure à zéro de votre nomination par le CSA. Voilà. Juste une question, pour que ça soit bien concret pour tout le monde. Quid des mois de salaire que vous avez perçus comme PDG depuis 5 mois? Vous êtes supposé les rembourser? Comment ça se passe? Je sais pas.
Cette idée a été effectivement évoquée, mais je pense qu'il y a une théorie qui s'appelle la gestion de fait. Tout travail mérite un salaire, j'ai fait mon travail, donc pour l'instant... On n'en est pas là, mais c'est possible, je ne sais pas.
Le doyen de votre conseil d'administration, Francis Huss, a été nommé PDG donc à votre place, selon le règlement.
Les statuts, oui.
Voilà, il a 85 ans, il vit à Madrid et le canard enchaîné croyait savoir qu'il n'avait pas l'intention de bouger de Madrid. C'est quand même un problème pour diriger un groupe.
D'abord, je tiens à le saluer parce qu'il a accepté tout de suite, parce qu'il a un vrai affectueux sociétatiste pour notre entreprise. Il siège au conseil depuis longtemps et c'était pas forcément évident pour lui. Il a accepté tout de suite. Dans la nuit du 13, quand je l'ai appelé.
Il a accepté le job.
Oui, il a accepté pour assurer la sécurité juridique de l'entreprise.
Alors, ceci dit, on vous a quand même nommé,
récemment. Il m'a demandé de rester à ses côtés dans l'intérêt de l'entreprise. Ce que le conseil d'administration, c'est-à-dire à la fois l'ensemble des tutelles, à la fois les parlementaires, les salariés, et également les personnalités qualifiées désignées par le CSA, l'ensemble du conseil a acté cette mesure qui était prise en intérêt de l'entreprise.
Alors, on vous a créé donc un poste sur mesure, directrice générale en charge de la stratégie et des antennes.
CDD.
J'ai donc une directrice générale en CDD. Sinon, vous n'aviez plus le droit de venir au bureau?
Le droit, je veux dire que les équipes et les salariés ont montré à quel point, d'ailleurs c'était très important dans cette période, ils étaient un soutien plein de bienveillance et d'affection pour leur PDG sortante. Donc je n'étais pas interdite, mais c'est vrai que j'ai laissé ma carte, ma voiture, mais je suis partie le 13, le matin j'étais PDG le soir.
Et vous n'étiez pas supposée transmettre ni vos dossiers ni aucune information à votre successeur?
Non, parce que c'est un cas de figure inédit, et autant il y a des tuilages entre président sortant et président entrant, dans le cas de nomination avec la procédure du CSA, autant dans notre cas de figure, il n'y avait pas de tuilage. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que le président intérimaire a souhaité que j'assure la continuité en fait à ses côtés dans une période.
Alors, très concrètement, qui est l'interlocuteur du gouvernement aujourd'hui, Marie-Christine Saragosse, en pleine réforme de l'audiovisuel public? Est-ce que c'est Monsieur Huss ou est-ce que c'est vous?
Non, c'est Monsieur Huss.
D'accord.
Qui est convoqué, mais Monsieur Huss travaille avec une équipe et avec moi.
D'accord. Le CSA se donne jusqu'au 21 avril, c'est très long pour justement pouvoir renommer un nouveau PDG à la tête de France Média Monde. Allez-vous vous porter candidate à votre propre succession?
Je l'ai annoncé...
Tout de suite.
Tout de suite. Je l'ai annoncé tout de suite parce que, justement, comme vous le disiez, cet outil formidable que la France a la chance d'avoir, qui s'appelle France Média Monde, et donc France 24, RFI, Monte Carlo Doualia. Peu de pays ont la chance d'avoir un audiovisuel extérieur. Certes, la concurrence est rude, mais en fait, il y a les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie, la Chine. Bon, alors, avec certains de ces concurrents, on est amis. Par exemple, avec la Deutsche Welle, c'est un partenaire plus qu'un concurrent. On fait beaucoup de choses ensemble.
Ouais.
Les Allemands de la Deutsche Welle... Voilà, on a lancé le site Migrant ensemble.
Ah oui, Info Migrant, dites un mot de ça parce que c'est absolument formidable. Info Migrant, c'est en trois langues, en français, en anglais et en arabe.
Et maintenant, dans deux langues afghanes, puisque c'est un gros flot de migrants également. C'était une idée que j'avais et que j'ai exposée à Peter Lindbergh, qui est un formidable patron de la Deutsche Welle, et il a dit banco. Et donc on travaille de manière géniale, puisqu'il y a une équipe à Paris, une équipe en Allemagne, mais il y a également l'ANSA, parce qu'on a dit que c'était pas possible de le faire sans les Italiens, donc on est allé chercher l'agence de presse
italienne. L'idée étant de fournir une information fiable et vérifiée sur les pays d'origine d'où viennent les migrants.
Absolument.
Sur les routes qu'ils empruntent.
Oui. Et de ne pas les laisser, ces migrants, face à des escrocs, à des esclavagistes, à des marchands de chair humaine, là, qui des passeurs qui font n'importe quoi. Donc, Et il y a beaucoup de succès. Vous savez, on a maintenant quasiment 500 000 abonnés sur Facebook. On a beaucoup de visites. Ça monte en puissance. On se sert beaucoup de cette technique des observateurs qui est la signature de France 24 depuis le début. C'est-à-dire que on a de l'info qui remonte par des migrants eux-mêmes, qu'on vérifie. C'est d'ailleurs cette même technique qui nous permet de lutter contre les fausses nouvelles. Parce que on fait partie.
On va y venir justement à tout cela.
Je ne vais pas plus vite
Marc,
que la musique. Mais...
Vous me permettez de vous poser encore deux toutes petites questions parce que c'est un tel sac de nœuds l'audiovisuel public en ce moment qu'on a quand même envie de vous dire, il y a un poste qui se libère à la présidence de Radio France. Vous êtes libre. Est-ce que vous allez vous y porter candidate? Je vous pose la question très sincèrement.
Sincèrement, d'abord je salue cette magnifique maison et je salue au passage Mathieu Gallet aussi dont je continue à suivre les défis, et puis je suis sûre qu'il va rebondir, donc je vais pas pouvoir faire deux choses à la fois, hein. C'est des grosses maisons, c'est des temps plus que pleins, et donc là, comme je l'ai annoncé le 13 au soir, le jour où j'ai appris que donc mon mandat...
Une candidature pour France Média Monde, pour Radio France. Un poste sera peut-être créé pour chapeauter France Média Monde, Radio France et France Télévisions. Est-ce que vous pourriez y être candidate? Alors, c'est-à-dire devenir une super dirigeante?
Alors, vous avez dit que peut-être et peut-être, c'est la différence entre une question qui se pose et une question qui se pose pas, donc elle se pose pas.
Allez, fin de ces questions d'imbroglio administratif et de candidature. Quelque chose a changé, Marie-Christine Saragosse, entre votre premier mandat, pardonnez-moi, et le second, c'est la montée en puissance des médias russes en France. Russia Today et Sputnik. Russia Today est désormais une chaîne de télévision conventionnée par le CSA. Je vous propose d'écouter son antenne, on était le 26 février. On parlait des armes chimiques dans la Ghouta orientale en Syrie. Bassar Taham, politologue franco-syrien, était l'invité du JT.
C'est de la propagande. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit qu'ils ont les yeux rouges et ils suffoquent. Mais vous savez, dans n'importe quel incendie causé par un bombardement, vous pouvez suffoquer et avoir les yeux rouges. Tout ça, c'est de l'enfumage, c'est de l'intoxication. Et je tiens à vous remercier de me donner la parole parce qu'il est très difficile en France de faire entendre une autre voix que la doxa concernant le problème syrien et tous ces problèmes liés comme le chimique et ainsi de suite, voyez-vous.
Marie-Christine Saragosse est mon invitée, donc directrice générale de France Média Monde. Sputnik et RT se présentent comme des médias publics, financés par le Kremlin, à vocation internationale, au même titre que RFI ou France 24 sont financés par Paris.
Alors, je pense que c'est important de faire le distinguo entre une chaîne gouvernementale et une chaîne publique. En France, le service public, c'est effectivement public, mais c'est pas gouvernemental. Mmh. Les rédactions sont indépendantes et des puissances d'ailleurs de l'argent et des puissances gouvernementales. C'est la redevance, c'est une recette qui est affectée et on est nommé de manière indépendante.
Par le CSA.
Donc et puis il y a une déontologie et si on a tant de succès parce qu'on touche, on a 135 millions de contacts hebdomadaires à France Média Monde dans le monde et on ne mesure qu'un tiers des pays où on est diffusé. Mmh. Donc si on a ce succès, c'est parce qu'on est capable de produire une information indépendante, crédible, vérifiée, honnête et que nos marques sont synonymes de liberté d'informer et de également droit d'être informé correctement dans beaucoup de pays où ça n'est pas le cas. Et moi je fais confiance aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux internautes.
Sauf que reconnaissez que justement les arguments de RT sèment le trouble. Je vous ramène par exemple au Sénat américain très récemment. Facebook, Twitter et Google sont convoqués par les élus américains, reconnaissant un peu tard que des acteurs russes ont massivement investi pour diffuser des messages sur les réseaux sociaux pendant l'élection américaine. Écoutez la colère de cet élu américain. Mais enfin, comment c'est possible? Comment Facebook n'a-t-il pas fait le lien entre des publicités payées en roubles par la Russie et la Russie?
How did Facebook somehow not make the connection that electoral ads paid for in rubles were coming from Russia?
The currency signal...
You can't say no to that.
It's very easy to...
Please answer yes or no, sir. I'm asking you a question. Just answer yes or no. Can you do that?
Please answer yes or no. Ils sont fous de rage. Et YouTube, filiale de Google, veut se racheter en signalant tous les contenus émanant de médias financés par l'État.
Alors, ils distinguent encore une fois, les médias financés sur ressources publiques, des médias gouvernementaux.
Vous êtes sûr?
Pour l'instant, en tout cas, sur YouTube, c'est ce qu'on nous dit.
Parce que même le service public, même les chaînes publiques américaines se sont carrément inquiétées en disant,
oui,
mais enfin,
c'est vrai que
ça crée un amalgame épouvantable.
Ça fait fort longtemps qu'on s'intéresse à ça, puisqu'on fait partie en plus de l'International Fact-Checking Network, et qu'on est dans la commission, enfin, on est auprès de la commissaire européenne aussi, qui réfléchit à ces questions dans le groupe de travail, que grâce aux observateurs dont je parlais tout à l'heure, on fait partie de toutes les initiatives comme le Check Cross de Google. On était médias français dans cette initiative pendant la campagne présidentielle française. On a vu arriver ça depuis fort longtemps. Nous, on a deux façons de lutter contre ça. D'une part, il y a une dimension d'éducation aux médias sur laquelle on est extrêmement engagé en France et à l'étranger, avec des productions spécifiques comme par exemple Info Intox, que j'avais proposé dès 2014 d'ailleurs à l'Éducation nationale, et en janvier 2015, si ça rappelle quelque chose. On a été appelés et depuis, on fait ça avec de la pédagogisation, avec de l'accueil des enseignants chez nous, parce que c'est fondamental d'éduquer les jeunes à faire le distinguo entre propagande, information, manipulation. Donc ça, c'est un axe très très fort et qu'on aimerait faire monter en puissance. Et d'ailleurs, c'est un des axes qu'on travaille avec les autres sociétés de l'audiovisuel public et dans la concertation qu'a lancée la ministre de la Culture. Et je pense que tout le monde est mobilisé et qu'on doit pouvoir monter en puissance ensemble là-dessus. C'est très très important. Nous, à la différence, on le fait aussi à l'étranger. Et on est attendu, y compris dans le monde arabe, et on nous demande ça.
Alors justement, à l'étranger,
Il y a cet aspect prévention et il y a l'aspect lutte sur le terrain. Les observateurs, mine de rien, c'est 5000 personnes dans le monde qui sont dans plein de pays. C'est en 4 langues. Et ils nous alertent, ils nous font remonter les fausses informations. Et ensuite, on peut donc les contrebalancer avec des vraies infos. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi au cœur des coopérations qu'on veut développer, notamment avec Radio France et votre agence d'information interne. Donc, on n'est pas inerte et on est à la pointe.
Il n'empêche, vous avez relativement peu de moyens. C'est très intéressant.
Merci de le dire.
Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand on regarde, en fait, les enjeux de l'audiovisuel extérieur, on se rend compte qu'il y a une nouvelle bataille qui a pris une dimension qu'on ne mesurait pas, en fait, il y a quelques années. Les politiques hurlent en réclamant des économies, en citant comme modèle la BBC. En réalité, la BBC sur l'international, sur BBC World, déploie des moyens colossaux avec 11 nouvelles langues en projet qui vont être lancées. Et nous, là-dedans. Et nous, pour faire entendre un journalisme et un regard à la française.
Il faut quand même dire que c'est vrai qu'on a moins de moyens que la BBC World, mais qu'on a...
Presque deux fois moins de moyens.
Oui, presque deux fois moins de moyens, mais on a des résultats qui sont excellents, très efficients. Par exemple, en Afrique, et c'est important parce que la bande sahélienne, c'est la matrice de tous les terrorismes. Et donc, il faut parler ces langues-là. On parle, par exemple, mandingue, mais on parle aussi swahili à l'autre bout, dans l'est de la République démocratique du Congo, parce que là, on est en situation où il n'y a que des radios des mille collines, si on laisse faire. Donc ça donne des résultats incroyables. RFI et France 24 en Afrique ont un statut qui est inimaginable en France.
Mais justement, l'Afrique, Marie-Christine Sarago, c'est-à-dire que la francophonie, c'est un marché qui attise toutes les convoitises. Les Russes émettent en français, les Chinois émettent en français depuis Pékin.
Oui, il ne suffit pas de parler français pour être francophone.
Justement, est-ce qu'on va être dans le match? Parce que c'est un match énorme dans les prochaines années.
On a plusieurs longueurs d'avance dans ce match-là. Il s'agit de pas les perdre et de pas se reposer sur nos lauriers. Mais en matière de francophonie, quand je disais 135 millions de contacts hebdomadaires, en Afrique, RFI France 24 en français domine toute l'Afrique francophone, sont très présents en Afrique anglophone aussi, en Afrique lusophone. Donc on est très très présents. On crée un bain linguistique en faveur du français ou une information sur la francophonie, y compris dans nos langues étrangères, énorme. Et donc ça, c'est déjà un premier point. RFI est un pédagogue fantastique. RFI offre, à partir de 20 langues étrangères, l'apprentissage du français, notamment les langues africaines. C'est un axe stratégique essentiel. Si on veut enraciner la langue française en Afrique, parce que c'est un atout pour les Africains, il faut apprendre le français à partir des langues maternelles des Africains. Ils naissent pas tous francophones. L'éducation des filles, pour moi, c'est un enjeu crucial de la francophonie.
Et ce sera chaque votre dernier mot.
Chaque
vous
fille
écoute.
Qui va être éduquée, elle va apprendre le français, elle le transmettra ensuite, et aussi elle restera plus longtemps à l'école si elle est éduquée. Elle sera moins réifiée. Elle prendra toute sa place. C'est une langue d'émancipation pour les femmes en Afrique, et ça, c'est mon obsession.
Merci beaucoup Marie-Christine Saragosse. Donc, directrice générale de France Média Monde, rendez-vous au mois d'avril. On verra ce que vous devenez.
C'est cela.
Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia Deville.
Bah alors, cassez-moi la gueule un bon coup parce qu'on est en retard et puis après ça ira mieux.
Comment dompter sa colère, c'est le thème ce matin. Quelles sont les raisons biologiques, psychologiques, sociales qui nous font exploser? Comment exprimer sa colère sans perdre le contrôle? Et vous racontez-nous au 01 45 24 7000 ce qui vous met en colère et comment vous faites pour maîtriser justement cette colère.
Est-ce que je peux participer, moi?
Vous allez faire la lettre de la haute autorité.